France Inter. Le 6-9 de l'été.
L'été, on a le temps de lire, d'écouter de la musique, d'aller voir des expos, de se faire un ciné. Justement, cette semaine, dans la tribune des critiques, un film sur le grill. Pour en débattre, Grégoire Leménager de l'Obs, bonjour.
Bonjour.
François Aubel du Figaro, bonjour à vous aussi.
Bonjour.
Aujourd'hui, une œuvre sans auteur.
Tante Elisabeth, du blutest.
Hast viel Scheiße erlebt, was? Ich werde deine Bewerbung unterstützen.
Du erinnerst mich an jemanden.
Würdest du mich gerne mal?
Ein Werk ohne Autor.
Ein Werk ohne Autor, l'œuvre sans auteur. C'est un film allemand, donc, de Florian Henkel von Donnersmarck, en deux parties, 3h10. Alors l'histoire, ça commence à Dresde en 1937. Le tout jeune Kurt visite l'exposition sur l'art dégénéré au moment où Hitler installe son Reich mortifère. Et l'on va suivre Kurt pendant une trentaine d'années, Kurt devenant peintre en Allemagne de l'Est, sous le régime communiste, puis à l'Ouest, où il peut enfin devenir un artiste moderne et libre. François, vous avez aimé, je crois.
Oui, j'ai beaucoup aimé parce que je vous l'avais dit, comme dans la vie des autres, Florian Henkel von Donnersmarck réussit à s'appuyer sur la création artistique pour réunir et mettre en scène justement les deux totalitarismes. Et en fait, il nous livre l'Allemagne en pâture et en peinture. Et c'est ça qui m'intéresse vraiment, moi, dans ce film, c'est la vérité artistique. Qu'est-ce que la vérité en art? Est-ce qu'elle peut aller jusqu'à démasquer des criminels nazis ou en tout cas permettre des connexions avec la réalité historique que l'artiste ignorait avant de prendre même ses pinceaux, quoi. Et c'est ça qui est très, très intéressant, puisque l'artiste part de la biographie de Gerhard Richter, mais ce qui est intéressant, c'est qu'il s'en éloigne assez habilement parce qu'il fait confiance à l'imagination du spectateur. Il est persuadé que notre imagination peut atteindre une vérité, j'allais dire, plus profonde que les données historiques factuelles.
Grégoire, vous avez aimé aussi? Vous êtes un peu plus réservé.
Oui, non, j'ai bien aimé. Bon, c'est quand même un peu plus démonstratif que ce que dit Aubel. Après, c'est vrai que 3h10, film allemand, au début on a très peur, le premier quart d'heure, il y a beaucoup de musique pour appuyer les moments mélos ou les moments dramatiques. On se dit que 3h10 comme ça, ça va être compliqué. Le film, par ailleurs, comme l'observe Jérôme Garcin dans l'Obs cette semaine, a un titre épouvantable. L'image est pas très belle. On se demande ce qui va se passer. Et finalement, moi, je me suis laissé attraper. Les effets de scénario sont très téléphonés.
Oui, c'est un peu convenu quand même, hein, l'histoire d'amour.
Il se refuse rien en termes de scénario. mais du coup, paradoxalement, ça donne une sorte d'efficacité au film qui fonctionne comme une mini-série télé assez bien fichue, avec un suspense, avec des rebondissements. On devine ce qui va se passer. Et au passage, alors la réflexion sur l'art, bon, moi je la trouve un peu appuyée et pas si passionnante que ça. En revanche, ce qui fonctionne très bien, c'est que ça nous raconte 30 ans d'histoire de l'Allemagne qui défile de cette manière, et comment on passe du nazisme au communisme, et comment on fuit le communisme pour tomber dans un truc qui est pas génial non plus, qui est un marché de l'art saturé par les lois du marché et par toute forme d'excentricité assez absurde.
Mais c'est un peu contradictoire de défendre l'art, le vrai, l'avant-garde, et de faire de ça un film très convenu, hein, franchement, dans la réalisation.
Il y a un peu ce paradoxe-là, c'est-à-dire que les premières scènes, qui sont pas mal d'ailleurs, avec la visite de l'expo sur l'art dégénéré qui est organisée par les nazis avant-guerre, j'ai pas pu m'empêcher pendant tout le film de me dire que ce film n'était peut-être pas assez dégénéré quand même pour me plaire vraiment.
Oui, peut-être qu'il est un peu sage, mais moi, en tout cas, mon grand plaisir, c'est de retrouver Sébastien Koch à l'écran, qui joue ce médecin nazi dans le film.
Il était dans la vie des autres.
Il était dans la vie des autres.
C'est un méchant très réussi.
C'est un méchant parfait, et on se demande tout au long du film s'il va être rattrapé par la culpabilité.
Vous vous ferez votre opinion. L'œuvre sans auteur de Florian Henkel von Donnersmarck. Assez peu de séances, hein, à Paris y compris. Messieurs, on passe à vos coups de cœur. François Aubel, un livre pour vous, Le dictionnaire sans fin sur le mensonge, qui vient de sortir aux éditions de Lerne.
Il faut ainsi nous souvenir, quand nous parlons de mensonge, et particulièrement du mensonge chez les hommes d'action, que celui-ci n'est pas introduit dans la politique à la suite de quelque incident dû à l'humanité pécheresse. De ce fait, l'indignation morale n'est pas susceptible de le faire disparaître.
Ici un extrait d'Anna Arendt. François ?
Oui, j'ai choisi de vous parler d'un livre qui n'est pas sans lien avec l'actualité, vous l'avez compris, et notamment l'actualité politique. Les éditions de Lerne publient leur tout premier dictionnaire, qui s'intitule donc le Dictionnaire sans fin, et il est consacré, comme vous l'avez dit, au mensonge. Et puis, parce qu'il n'y a pas de vérité qui ne mente, comme l'écrivait Lacan, on retrouve dans cet ouvrage l'idée, le concept du mensonge décortiqué par les plus grands auteurs. On part d'Aristote, pour qui le mensonge était mauvais et haïssable, en passant par Balzac, qui évoque le mensonge amoureux, ou Anna Arendt, comme que vous venez d'entendre, qui nous dit que la véracité n'a jamais figuré au nombre des vertus politiques. Hein, suivez mon regard. Bref, le syndrome de Pinocchio n'aura plus de mystère pour vous, et je vous le dis, Amélie Perrier, les yeux dans les yeux, hein, c'est un dictionnaire à mettre dans vos valises pour les vacances.
Le dictionnaire sans fin sur le mensonge. Grégoire Leménager, vous, c'est un festival, votre coup de cœur, et je ne peux que m'associer, c'est Jazzine Marciac. Ahmad Jamal, ce sera le 4 août à Marciac.
Oui, je crois que ça va être un événement. Enfin, bon, il y a une belle programmation, hein, comme souvent à Jazzine Marciac. Il y a Grégory Porter, il y a Chucho Valdés, il y a Mélodie Gardot, que j'aime moins, mais qui est là quand même. Il y a Chic Corea, il y a Eric Bibb, qui est un super bluesman. Et puis, il y a Ahmad Jamal, quand même, qui est un très grand monsieur. Apparemment, c'est sa dernière tournée européenne. Il va donc jouer vraisemblablement en France pour la dernière fois. Il va sortir un album de balade à l'automne, là, qui est très beau, où il est tout seul au piano. Là, il est avec des musiciens. Moi, j'ai eu la chance de le voir sur scène récemment et j'ai pu vérifier que Miles Davis, qui a quand même une petite oreille, ne le considérait pas pour rien comme un immense pianiste. Miles Davis, il disait, première fois que je l'ai entendu, ce type m'a mis KO avec son concept de l'espace, la légèreté de son toucher, son côté minimaliste, la façon dont il phrase ses notes, ses accords et ses transitions. Ça, c'était en 1953, quelques décennies plus tard. Miles Davis s'en souvenait. Là, Ahmad Jamal, il a 88 ans et il a des doigts incroyables. Il a une façon de toucher le piano. Il a des doigts de fée, quoi, ce monsieur. Ses doigts n'ont pas du tout 88 ans, c'est extraordinaire.
Ahmad Jamal, ce sera donc le 4 août à Marciac, Jazzine Marciac. C'est du 25 juillet, jeudi prochain, au 15 août, c'est dans le Gers. À la semaine prochaine, messieurs.
Oui, à la semaine prochaine.
Oui, à la semaine prochaine.